bonjour à tout le monde. Donc, merci de venir assister à cette table ronde sur les romans inclassables. Donc, avec Jack Baudou, Julien Brock, Charles Strauss et Jacques Barbery. Pour commencer, je vais vous les présenter un petit peu, mais j'ai pensé que vous les connaissiez peut-être déjà, ou alors que vous les aviez entendus à d'autres occasions. On fera une petite lecture de chacun pour rentrer un petit peu dans leurs univers et dans ces romans, pour voir s'ils sont vraiment inclassables. Donc Jack Baudou, c'est votre premier roman, mais bon, vous êtes surtout l'un des plus grands spécialistes des mauvais genres, comme on dit, les genres imaginaires et les policiers. Vous avez fait déjà quelques nouvelles, comme La chose dans les glaces sur une pierre blanche.
Oui, effectivement. Oui, j'ai commis quelques fictions.
Et dès que sais-je, aux omnibus, des études aux anthologies, vous n'avez cessé de défendre votre passion. Dernièrement, vous avez publié aussi le Dico Sherlock Holmes, qui est un morceau littéraire en tant qu'un ouvrage explicatif.
Oui, c'est mon co-auteur et le prof éditeur du collège de pataphysique, et donc c'est un ouvrage qui est très nettement coloré de pataphysique.
Et alors pour commencer, donc on va rentrer dans les livres par les pupitres. Hein. Je ne vous fais déflore pas les ouvrages. Le crépitement soudain et brutal de l'orage sur les tuiles de la maison forestière l'extirpa d'un coup de sa rêverie. Dans la machine à écrire posée sur la petite table qui lui servait de bureau, la feuille blanche était restée rigoureusement vierge. Il n'avait pas tapé un seul mot, pas même une lettre. Il se leva et alla jusqu'à la fenêtre. La pluie qui tombait en véritable déluge ruisselait sur la vitre, brouillant la vue. Il contempla la forêt noyée sous des troncs d'eau. Il éprouva fugitivement la curieuse impression de se trouver devant une baie d'aquarium. Il resta là à regarder ce paysage si familier qui lui apparaissait étrangement gauchi par le fluctuant rideau liquide zébré de temps à autre par le flash des éclairs. Où était-il donc parti? Vers quel territoire? Et si profondément qu'il n'avait rien remarqué des prémices qui annonçaient la venue des violents orages estivaux de la région. Où étiez-vous donc parti pour attendre si longtemps pour nous fournir cet excellent premier roman?
C'est pas le premier roman que j'essaie d'écrire. J'ai commencé plusieurs romans pendant les vacances. Et puis. Au mois de septembre, je retrouvais mon métier d'animateur culturel. Et donc, ça devenait très compliqué d'écrire. Et puis, il y avait des tâches d'écriture beaucoup plus faciles que d'écrire un roman qui m'attendait. Travailler dans l'édition sur des volumes omnibus, écrire des ouvrages sur la télévision, la radio, etc. Il a fallu que j'attende d'être à la retraite pour avoir d'abord pour être détaché de tout tracteur professionnel et ensuite pour avoir le temps de me mettre sur une longue période un roman. Voilà. Mais bon, comme vous imaginez, à mes cheveux blancs, je ne ferai pas une grande carrière.
J'espère que vous nous en fournirez quand même quelques autres.
Il y a le deuxième sera publié cette année.
Merci. Jacques Barbery, vous avez fait énormément de choses, hein. Ça fait quand même une trentaine d'années que vous écrivez. Une trentaine? Non, pas tant que ça. Scientifique, vous avez étudié les insectes et la physique quantique, donc c'est des choses qu'on va retrouver un petit peu dans vos textes, mais c'est vrai que vous n'êtes pas littéraire de formation. Vous avez publié aussi des nouvelles, vous avez mêlé les genres, et même si on trouve des thèmes récurrents, le temps, la mémoire, la création des mythes, et qu'on vous apparente, excusez du peu à Philippe Cadic, hein, vous avez une manière toute particulière de déstabiliser le lecteur. Qui vous donne donc une place d'honneur dans cette table ronde sur les romans inclassables. Et pour preuve, donc, je vais lire un petit extrait de votre dernier livre. quand j'ai pas dit la visière de Bohème sur mon toit électrique pour Zabou. La salle, gigantesque, était plongée dans une pénombre bleutée. Les gestes de la tête paraissaient floutés, comme s'ils prenaient place dans plusieurs dimensions à la fois. Cette impression était-elle imputable à la nature fantomatique de l'éclairage et à la peur qu'engendrait la terrifiante pression de l'autorité suprême? Ou bien à une réalité tangible qui situait la tête au-delà de l'humain? Difficile de trancher. Elle se déplaçait derrière son bureau en agitant ce que l'on pourrait qualifier de bras, même si leur longueur et leur finesse les apparentaient plutôt à des pattes d'insectes. La tête avait une voix à la fois caverneuse et sifflante, comme si elle tombait du ciel et frondissait en pénétrant dans l'atmosphère. Elle fit le tour du bureau, immense plateau noir, laqué, constellé de reflets, miroir d'un ciel étoilé, disparut dans un trou noir, réapparut dans une fontaine de lumière en une chorégraphie tentaculaire. J'ai l'impression que la situation est en train de vous échapper, docteur Ravon. Alors, nous, la situation nous échappe dès le début, et du coup, quelle curiosité quand on rentre dans le roman par cette approche étonnante, hein, puisque ça a l'air comme ça, première phrase, tout va bien, et puis les tentacules arrivent.
C'est surtout dans l'idée de rentrer tout de suite en action sans forcément avoir des explications préalables, de mettre en place l'univers, mais de rentrer tout de suite en action dans les lieux, dans l'environnement, dans le contexte. Et puis, au fil du récit, petit à petit, délivrer des touches d'informations qui vont permettre au lecteur de se stabiliser de plus en plus dans cet univers. Effectivement, créer un choc dès le départ, se dire bon, ben voilà, on rentre de plein pied dans un univers qui peut paraître un petit peu comme ça, bon, étrange et inquiétant, mais petit à petit, les éléments vont arriver pour que le lecteur se repère de plus en plus facilement dans cet univers. Et j'aime bien, oui, effectivement, rentrer de plein pied à la fois dans le style aussi du texte et mettre le lecteur en situation le plus obligé de qui prenne une chiffre. C'est à le prendre tout de suite par le même coin. Et après, oui, petit à petit, quand même, le billet est en plus dans le récit. C'est pour ça que ça peut être un peu déstabilisant au départ. Mais il faut se lâcher là, quoi. Je crois qu'il faut se lâcher en se disant que, bon, ben, les choses vont se décanter au fur et à mesure.
Vous êtes tous dans ce cas-là, hein, chacun avec vos différents ouvrages. On rentre dedans et puis voilà, tout de suite, on accepte le contrat et c'est parti, quoi. Enfin, on peut partir loin. Général Brock, plus jeune auteur de cette tablée, vous êtes cofondateur des éditions Trash. C'est votre premier roman?
Oui, c'est pas. C'est le deuxième que j'ai écrit, mais c'est le premier à avoir été publié. Le tout premier n'est pas encore publié. Mais auparavant, je me suis quand même fait la main sur des romans sous format fascicule ou carnoplaste. C'était des petits romans qui feraient 150 pages en poche, donc on est sur une grosse novella. Donc voilà, j'avais eu l'occasion d'en écrire trois, je crois. Mais le vrai gros roman, voilà, c'est celui-là, effectivement.
Donc un roman fantastique, musical, sous acide.
Oui.
Donc on va écouter donc quelques lignes. C'est pareil, ça démarre bien. La Californie était 1996. La vieille Pontiac filait sur l'asphalte brûlant, soulevant un nuage de poussière âcre. D'aucuns auraient toussé, mais il n'y avait pas homme qui vive. Pas même un retour à la cour volant en cercle, le genre de mauvais présage qu'on regarde en plissant les yeux et en crachant sur la terre ocre. Josh conduisait, une main sur le volant, l'autre sur une canette de bière. Le soleil lâchait l'affaire. Il avait suffisamment carbonisé la région et s'accordait une pause avant de remettre le couvert dans quelques heures. Ses rayons se noyaient dans une masse informe et rougeoyante qui teintait le ciel. Pas encore le besoin d'allumer les phares. De toute façon, il n'en restait qu'un. L'autre avait été brisé deux semaines auparavant par un petit dealer mécontent du faible pouvoir d'achat de Josh. Une radade de Corona, une poignée d'Adipex pour rester éveillé. Josh roulait depuis des heures. Il se tapait toute la Californie de haut en bas à un train d'enfer. Et ça démarre un train d'enfer. Donc, avec ce roman, c'est pareil, hein, on rentre directement dans cette action avec un personnage atypique dont on se doute dès le début que ça ne va pas être un héros classé facilement.
Oui, il y a un peu un petit côté anti-héros, effectivement. C'est un jeune homme toxicomane, un peu loser sur les bords, on va dire, qui vient en plus de se faire larguer, donc qui part à la recherche et à la reconquête, on pourrait dire, de son ex-petite amie, en fait.
Merci. Charles Strauss. Non, merci. Bon, alors, vous avez une bibliographie impressionnante, évidemment. Nous sommes flattés de vous avoir aussi avec nous aujourd'hui. Vous avez une multiple prix, alors prix Hugo avec Palimpseste, les prix Locus avec Acelerando et Apocalypse Codex. On parle beaucoup de vous avec vos romans inclassables qui mélangent les genres. Vous écrivez aussi de la fantasy. Et puis, bah, vous représentez cette génération montante qui bouleverse les codes en Grande-Bretagne.
Yeah. The Atrocity Archives was Atrocity. Do I have it? Yes. Yes. Okay. I wrote it quite early on in my career.
J'ai écrit ça au début de ma carrière.
At a point when none of my other novels had appeared in print yet.
À une époque où aucun des autres romans n'avait été imprimé.
And when I sent it to my literary agent for the first time, she rejected it.
Quand je l'ai envoyé à mon agent littéraire pour la première fois, elle l'a rejeté.
It appears that in the year 2000, you weren't really allowed to write.
Dans les années 2000, vous n'étiez pas tout à fait autorisé à écrire
a humorous Lovecraftian horror novel.
Un roman humoristique sur base Lovecraftienne.
That satirizes government bureaucracy and dot-com startup culture.
Qui fait une satire de démocratie, des gouvernements démocratiques et du boom informatique.
In the style of a famous spy thriller writer.
Dans le style d'un écrivain de thriller fameux.
And much to everybody's surprise, it succeeded.
Et à la surprise générale, il a eu beaucoup de succès.
It was first published in a very obscure Scottish magazine.
Ça a été d'abord publié dans un très obscur magazine écossais.
Then picked up by an American small press.
Et ça a été chopé par un petit éditeur américain.
Which is when I had to add the novella of a concrete jungle.
C'est quand j'y ai ajouté la novella, la jungle de béton.
Which to everybody's surprise won a Hugo Award.
Et à la surprise générale a eu le Hugo.
And the series has just been building momentum for 10 years since then.
Et cette série a juste attrapé son rythme au cours des dernières 10 années.
Although there were 5 years between the first two books.
Bien qu'il y ait eu 5 ans entre les deux premiers livres.
And 3 years before the third book.
Et 3 ans avant le troisième.
But they're now coming at 1 a year.
Et maintenant, il y en a une qui sort pas.
I'm just hoping they're still as weird as they were.
Et j'espère seulement qu'elles seront toujours aussi étranges qu'elles l'étaient.
Because I'm told there's now an actual subgenre of this sort of thing.
C'est un sous-genre en elle-même.
And what this means is if you're weird enough but successful, you stop being weird because everybody else does the same thing.
Ça signifie qu'une seule chose, c'est que si vous avez assez de succès avec quelque chose d'étrange, vous cessez immédiatement d'être étrange parce que tout le monde essaye de faire la même chose.
On va écouter un peu ce que ça donne. Service actif. Ciel vert, la nuit, le hacker réjouit. Je suis tapis dans la haie d'arbustes derrière un bâtiment de la zone industrielle, armé d'un bloc-notes, d'un beeper et d'une paire de grosses lunettes infrarouges bulbeuses qui barbouillent le décor en vert émeraude blafard. Ces bidules à la con me donnent la tronche d'un relais. qu'est-ce qui vous réunit, qu'est-ce qui fait que vous êtes inclassable, vous, ou ces romans-là en particulier. Je reviens vers vous, Jacques Baudou. Quand on commence La Lisière de Bohème, on est tout de suite frappé par l'intertextualité. Je vous avoue que j'ai eu un peu peur quand j'ai vu cette jeune femme arriver. Je me suis dit, est-ce qu'elle va lui couper un pied ou est-ce que tout va bien se passer, on n'est pas dans Misérie. Comment est-ce qu'on écrit un premier roman quand on a étudié d'autres toute sa vie et quand on connaît très bien ces genres? Voilà, comment on se place? Est-ce qu'on a envie de faire quelque chose qu'on va classer ou tout simplement bah, on fait et puis après on verra où est-ce qu'on met ce roman-là?
D'abord, c'est un roman dans lequel il y a trois récits différents, mais qui à la fin convergent. Alors, ce qui est amusant, petit travail de structure, c'est d'arriver à ce que la convergence soit pas trop artificielle. Alors, le premier récit, je n'ai pas essayé d'être très original, c'est une histoire de fantôme assez classique sur un schéma de story anglaise, c'est-à-dire il y a des fantômes, ils sont il y en a trois là pour faire bonne mesure. Ils sont toujours dans notre monde parce que quelque chose les retient. Ça, c'est la formule habituelle du récit de la ghost story. Et puis il y a quelqu'un qui va arriver et qui va réparer ce qui oblige les fantômes à rester fantômes. Donc là vraiment c'est une tradition très classique. Le deuxième récit est un récit inspiré d'André Dattel et de son roman Le pays où on n'arrive jamais. Là, c'est un château où on n'arrive jamais. Et le troisième récit, l'idée était de partir d'une contrée, d'une petite région qui s'appelle le domaine dans lequel on raconte des histoires, des contes à la veillée qui sont des contes qui n'appartiennent pas à la classification d'Anne Thompson, c'est-à-dire qui ne sont pas des contes populaires habituels sur notre planète. Voilà. Donc c'est surtout la structure qui fait que le roman appartient pas à un genre particulier, mais il y a à la fois du fantastique, il y a à la fois de la fantaisie, il y a même un peu de science-fiction. Et le héros, c'est pas réellement le héros, le personnage principal qui est un écrivain, a écrit sous pseudonyme des romans à la Jules Verne. À partir de ça, il y a un petit embryon de science-fiction. Je me rappelle que j'ai fait des études de sciences quand j'étais jeune.
Jacques Barbéry, c'est pareil, on a vu que vous aviez cette façon d'entrer qui était un petit peu déstabilisante. Par rapport à cette question des genres, j'ai lu une chronique qui disait de vous que c'est comme une toile bien arrosée, la gueule de bois au moins. Les univers sont imbriqués, il y a des hallucinations, une confusion entre rêve et réalité.
Donc c'est peut-être ça qui est déstabilisant, c'est ce déséquilibre entre les deux. Puis aussi, bon, j'aime bien par ailleurs le polar et le thriller, il y a toujours aussi un fil polar au thriller, donc ça rajoute encore une couche avec du suspense, et un suspense qui peut devenir un petit peu compliqué, puisque à travers des tas de portes, de monde, de voilà.
Merci.
Julien
Elbrock, tout de suite avec cet anti-héros donc complètement camé et qui finalement se révèle assez rapidement plus droit dans ses baskets qu'on aurait pu le penser. Il est très amoureux de son Ophélia, il est mignon dans cet amour-là. Est-ce que d'emblée c'est ce choix de l'anti-héros qui vous rend hors du commun, qui vous donnerait cette place
je pense pas, parce que finalement cet anti-héros c'est une figure assez utilisée, assez fréquente, de plus en plus peut-être même, j'ai l'impression. Donc, ce qui pourrait rendre le roman inclassable éventuellement, je dirais que c'est parce qu'il, je me suis inspiré, alors non pas de la littérature, mais pas mal du cinéma, et de différents types de films que j'ai mélangé un petit peu. Après, il y a un côté road movie qui peut donner une sorte de roadbook, hein, puisqu'on suit l'itinéraire de ce personnage, puis de son compagnon, et là on entre dans le body movie, puisque c'est vraiment deux personnages que tout oppose dans cette tradition des films américains un peu des années 80, enfin il y en a eu avant, mais c'était un peu l'époque reine de ces body movies. Et puis il y a un petit peu de fantastique qui se joint à ça, ou est-ce que c'est les délires d'un drogué, ou est-ce que c'est vraiment du fantastique, il y a un côté mythologie aztèque, etc. Donc c'est tout un espèce de raccourci peut-être, voilà, qui fait qu'il est un peu difficile à classer, parce que la figure de l'anti-héros, alors, je vois la figure de l'anti-héros, il peut y en avoir des anti-héros à la Snake Plissken de New York 97, qui est badass, qui est costaud, etc. Et là, on est vraiment dans l'anti-héros moyen, vraiment qui a un peu de ressources, mais comme chacun d'entre nous pourrait avoir, et qui doit puiser dedans, mais qui n'est pas ni effrayant, ni costaud, ni.
Charles Strauss, vous avez publié en 2013 un texte qui n'est pas encore traduit et dont vous avez parlé l'autre jour en café littéraire, Neptune de Smaud. Neptune Smaud. Et alors, ce qui m'a frappé, j'ai eu envie de le découvrir, vous avez un thème. Essayer de comprendre pourquoi les hommes explorent l'espace. Et puis, on a une non-contrôleur fiscale. Donc, une question très sérieuse et un traitement hors du commun. Et quel est l'effet recherché sur votre lecteur?
In some ways, Neptune's Brood is a very conventional novel.
D'une certaine manière, Neptune's Brood, c'est une histoire très conventionnelle.
It's set in a universe where humanity has colonized the nearest stars.
C'est mis dans un univers où l'humanité a colonisé les étoiles les plus proches.
Where interstellar travel is very dangerous and expensive and slow.
Où le voyage interstellaire est très cher, très long et très dangereux.
Where the fastest spaceships travel at 1/100 the speed of light.
Où les vaisseaux spatiaux les plus rapides voyagent à 1/100 de la vitesse de la lumière.
So that even the nearest stars are 500 light years away.
difficile à expliquer par le biais de recherches, mais pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait créer une colonie sur une étoile?
So I began thinking about the economics of it.
Alors j'ai commencé à penser au système économique de tout ça.
One argument for colonizing the stars is a religious imperative.
Une des raisons pour la colonisation, c'est un impératif religieux.
We've all heard the Americans who say the Earth is too small, we've got to go to Mars or whatever. This is essentially a religious idea.
Alors, on a tous entendu les Américains dire que la Terre était trop petite, on va aller sur Mars, etc. Mais quand on y regarde de plus près, c'est simplement une raison religieuse.
But is it possible to invent an economic system?
Est-ce que c'est possible d'inventer un système économique
that provides for trade and information across interstellar distances?
Qui permet le transit d'informations pour le commerce sur des distances interstellaires?
And which has a built-in incentive to colonize other star systems?
Et qui a à l'intérieur un système de bonus et de motivation pour coloniser les systèmes stellaires.
And I wrote this shortly after reading a book by the sociologist David Graeber.
J'ai écrit ça juste après avoir lu un livre du sociologue David Graeber,
titled Debt, The First 5,000 Years.
What's right for debt? Debt, qui traçait la dette sur les premiers 500 ans.
Which is about the sociology of the origin of money.
Qui est à propos de la sociologie sur l'origine de l'argent.
He's not an economist. He takes a much broader view.
C'est pas un économiste. Il a une vue beaucoup plus large.
And it seems to me that there were some ideas here that would be very useful to science fiction.
Et il m'a semblé que là-dedans, il y avait des idées qui auraient pu être très utiles à la science-fiction.
So, I ended up writing a hard science fiction novel about banking.
Alors, j'ai commencé par écrire une histoire de hard science à propos du système bancaire.
And if you posit interstellar trade and banking,
et si vous croisez le marché interstellaire, les échanges interstellaires et le système bancaire,
people will try to commit fraud.
Les gens vont essayer de frauder.
So I began asking what sort of frauds might they commit.
Et je commençais à me demander quel genre de fraude ces gens-là pourraient bien commettre.
And that's what the novel's about.
Et c'est le sujet du roman.
Yes. Je vais retourner un fou avec Jacques Baudou. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a vraiment une importance. On a des romans dans le roman, on a plusieurs histoires, une façon de faire bouger les frontières aussi. Et puis il y a cette importance des lectures d'enfance dans un roman de la maturité. Par rapport à ça, cette intertextualité forte et cette présence vraiment forte est assumée, puisqu'on a au début de chapitre systématiquement des extraits, des citations. Est-ce que c'est une façon quand même, non pas de se classer, mais de s'inscrire dans une généalogie et puis d'apporter voilà, la pierre suivante?
Façon de classer, donc, je me suis aperçu que Jacques Barbéry avait aussi utilisé des têtes de chapitres, des citations têtes de chapitres. Et j'ai vu qu'il y a un de mes auteurs de chevet qui ne figure pas dans le liseur de Bohème, mais il y a plein d'auteurs de chevet qui ne figurent pas dans le liseur de Bohème, qui est Borges, parce que pour ma génération, peut-être, Jacques pourrait le confirmer, la lecture de fiction a été quelque chose d'absolument extraordinaire et peu de livres ont apporté autant de matière à notre réflexion et sur ce qu'est la nouvelle, le roman, ce que ça peut être, etc. Pourquoi des têtes de chapitre? Depuis que je suis lecteur adulte, à chaque fois que dans un roman, je trouve une phrase qui me plaise, je la mets dans des carnets. Et donc, à un moment, je me suis dit, ce serait que j'ai essayé dans ce livre de faire quelque chose d'un peu équivalent à ce qu'il a fait dans Le Pays du Fou Rire. C'est l'histoire d'un écrivain qui écrit, enfin d'un chercheur en littérature qui écrit la biographie d'un auteur de fantasy, qui d'un seul coup se rend compte que l'univers fictif de cet auteur envahit notre monde. Et donc je me suis dit que ce serait aussi intéressant d'écrire un livre dans lequel il y a un univers fictif qui envahit notre planète, et je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça.
Barbélie, dans vos deux romans fous, je pense à Cosmos Factory, qui est paru l'an passé, qui complète Crépuscule des Chimères. C'est des romans on découpe ses parents à la hache. Quand c'est pas la grand-mère qui veut éradiquer son petit-fils qu'elle prend pour un démon. Là, au-delà du mélange des genres, on a une rupture des codes par rapport à ces questions de la famille. Il y a quand même, au-delà du côté délirant, on peut s'interroger sur les rapports entre les frères, rapport avec la grand-mère, avec le secret de famille. Enfin, on a des choses, des thèmes qu'on va retrouver en blanche aussi. Comment est-ce que ça se mélange? Quel est l'intérêt pour vous de...
L'intérêt, c'est quand même de rester un minimum ancré dans le réel, quoi, dans une certaine réalité psychologique. Enfin, je veux dire, je ne sais pas, moi, récemment, on peut parler de Game of Thrones, quoi, c'est un peu le côté délirant, mais c'est finalement, c'est des rapports entre les individus. Là, c'est pour rester ancré dans le réel, donc avec des personnages qui doivent avoir une certaine épaisseur, et puis certains ont un comportement un petit peu extrême, mais enfin, quand on regarde les faits divers, c'est pas si... La réalité, à mon avis, dépasse à ce niveau-là, mais souvent ce genre de fiction. Donc, mais c'est pour les personnages, les rapports qu'ils entretiennent entre eux, c'est pour montrer tout ça, sans en vrai ne pas être que dans des délires métaphysiques qui m'intéressent, peut-être qu'on est rôté, enfin bon, voilà, tout est intriqué, quoi. Non, c'est par souci pour coller à l'humain, en fait, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est le réel, mais ce qui est l'humain aussi. Donc, voilà, au niveau des rapports.
Voilà, c'est vrai, j'essaie de vous emmener, parce que finalement, on dit inclassable, on est hors du commun, et puis on y retrouve quand même des questions essentielles. L'intérêt, finalement, ça va être ce regard un petit peu particulier, et on passe par des tours de violence ou des histoires.
Oui, on m'a toujours reproché ce genre de passages assez violents, assez durs. Moi, j'ai l'impression que la réalité d'une violence extrême, quoi. Alors, c'est la réalité, la raison pour laquelle on vit en ce moment est quand même excessivement violente. Donc, avoir des passages de cette nature-là ne sont pas si anachroniques, quoi. Je veux dire, c'est marrant parce qu'on se fait ce genre de remarques. Dans un quotidien, c'est extraordinaire, les bébés congelés dans un frigo. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant.
Donc, je crois qu'il y a de ça. Enfin, moi, dans tout ce que j'ai pu voir de ce que vous faites, et ce qui me semble intéressant les uns les autres, c'est qu'on va pointer du doigt dans les présentations de vos ouvrages des choses qu'on trouve atypiques, inclassables. Et puis finalement, ce sont des textes.
En fait, c'est le nouveau réalisme.
Oui.
Je crois que c'est ça.
On trouve ça dans Stoner Road. On est très influencé par la musique, par le cinéma. Vous nous disiez tout à l'heure, Stoner Rock qui donne son titre au roman, les road movies, les body movies. Comment ces influences vous ont nourri pour donner une originalité, mais en même temps, elle va vous permettre aussi de faire référence à ces thèmes assez qui font que le roman va toucher, n'est pas, s'il est déstabilisant un petit peu, n'est pas non plus complètement halluciné.
Non, on reste entier connu dans la grande partie du roman, sauf peut-être dans quelques délires psychotropes éventuellement. Et même là encore, j'essaye de ne pas verser dans le côté un peu métaphorique, métaphysique qui pourrait perdre le lecteur et tout ça. J'ai essayé d'avoir une approche très premier degré et fait donc, comme je disais tout à l'heure, faire un mélange de tous ces thèmes, de toutes ces influences qui structurent le récit. Mais l'idée, oui, effectivement, c'est aussi d'emmener le lecteur dans un terrain connu, avec des choses qui lui parlent, qui vont poser les bases de l'histoire que je vais raconter, quoi. C'est tracer la route, c'est clair, mais il y a un petit côté, plein de références que j'ai voulu faire. Je pense que voilà, elles sont familières aux gens qui peuvent avoir les mêmes cultures ou les mêmes goûts que moi. Pour ce genre de film, pour les séries télé, je pense à Breaking Bad par exemple, qui m'a quand même aussi un peu influencé. Tout à l'heure, il y a un lecteur qui me parlait de Sons of Anarchy, qui est aussi un petit peu dans cette culture-là, même si je ne sais pas trop, c'est pas une histoire de motard, mais voilà, c'est disons tout ce croisement d'influences qui emmène le lecteur dans un univers à la fois des paysans, j'espère, parce qu'il faut que ça apporte quelque chose, hein, à l'histoire, mais en même temps un peu familier, avec même des petits passages stéréotypés. Je m'amuse des clichés, certains pour les renverser un petit peu, avec des personnages qu'on pourrait penser un peu débiles, qui ne sont pas tant que ça, ou une sorte de choses. Et puis, je trouve que le renversement systématique du cliché n'est pas forcément pertinent. Donc, des fois, c'est bien aussi d'aller dans le sens du cliché pour que le lecteur puisse s'accrocher un petit peu.
Charles Strauss, vous inspirez aussi de l'actualité, même de l'actualité brûlante parfois.
Oui. Virtually every day before I start writing, I have to spend 2 or 3 hours soaking in the internet.
Tous les jours avant de commencer à écrire, je passe plusieurs heures sur internet à me baigner dans tout ce qui se passe.
I have about 300 to 500 news feeds mounted at a piece of software.
Et j'ai environ 400 à 500 news feeds, alors 400 à 500 pointeurs d'informations.
Which I skim, I can't read at all.
qui passe à travers parce qu'il ne peut pas tout lire.
But it tends to keep me ahead of the interesting stuff.
Mais ça a tendance à me garder quand même les trucs, ça a tendance à me garder de l'avance sur les trucs intéressants.
I found people, fans of mine, email me, have you seen this or that?
Et j'ai des gens qui m'envoient des emails pour me dire, est-ce que t'as vu tel truc ou tel truc?
And the answer is usually yes, 2 days to a week ago.
Et la réponse est habituellement oui, entre 2 jours et 2 semaines plus tôt.
I'm slowing down, but as I get older.
Mais je ralentis. Je ralentis avec l'âge.
So I'm cheating by writing more fantasy.
Alors je triche en écrivant plus de fantasy.
But you can get a very interesting feel for where the world is going in a few years.
Mais vous pouvez avoir une belle vision de ce que le monde va devenir dans quelques années.
If you read the bleeding edge technology news for the industry.
Si vous lisez toute la presse consacrée à l'industrie.
Jacques Baudou, je reviens vers vous. Donc, avec ce mélange que vous avez créé dans la lisière de Bohème, ou même il y a des textes dans les textes, puisque par exemple, je me suis demandé si les Robinson de la Canopée avaient été écrits, ou si c'était juste un clin d'œil à quelque chose qui pourrait être fait, ou une envie. Donc, vous avez. Cette façon de mêler tout ça, et est-ce que pour un premier roman, quand on a toutes ces influences dont vous parliez tout à l'heure, comment est-ce que vous avez pu structurer et quelles sont les boîtes dans les boîtes que vous avez mises ici?
On ne sait pas, l'écriture a été plus simple que ça en fait. D'abord, hein, je n'ai pas été paralysé du tout par des références. Je pense que peut-être un lecteur n'empêche pas de créer son propre univers. Au contraire, ça permet de le nourrir. mes influences littéraires figurent pas dans la lisière de Bohème. J'ai mis un petit peu de côté. Donc, il n'y a pas de boîte, simplement le fait que le protagoniste principal ait écrit un roman de science-fiction à la Jules Verne. C'est d'abord parce que Jules Verne a beaucoup compté pour moi. Je suis devenu un lecteur de science-fiction à cause de Jules Verne, et puis un petit peu plus tard de Wells quand j'étais adolescent. Et ensuite, le thème du Robinson, c'est peut-être un des thèmes les plus vivaces de toute la littérature d'imagination. Il suffit d'aller faire un tour sur Internet et de voir les sites qui sont consacrés, des romans sur des Robinsonades, il y en a des centaines de mille. C'était une façon de faire un petit clin d'œil. Non, ce roman n'est pas écrit. Et je pense pas que je l'écris un jour de toute manière.
Jacques Barbéry, sur Mémoire de sable, ce texte est particulier puisque vous avez repris le travail d'Emmanuel Joan que vous avez achevé, terminé. Alors, déjà, c'est quelque chose qu'on peut imaginer compliqué, mais alors en plus, avec un imaginaire aussi fort qui était le sien et le vôtre, même si vous avez travaillé ensemble, même si vous vous connaissiez bien, comment on fait?
Effectivement, j'avais déjà travaillé sur plusieurs textes avec Emmanuel, donc une série de nouvelles et un roman. Mais effectivement, ça a été assez difficile. Et en fait, je pense que ce n'est pas à ce niveau-là que je prévoyais la difficulté. J'ai dû m'immerger pendant au moins 2-3 mois dans la partie qui était déjà rédigée, donc qui n'était pas complète, qu'il fallait un peu restructurer. Bon. Mais j'ai dû m'immerger et surtout m'accaparer ces personnages, parce qu'en fait, j'ai gardé tous les personnages que j'avais écrits, qui étaient donc ces personnages. En fait, c'est là que la difficulté a été la plus importante. Et j'ai cru à un moment donné même que j'allais renoncer. Et puis finalement, ça s'est passé, il y a eu des clics comme ça, ça s'est produit, et ces personnages sont devenus les miens. Et puis ça a été ça le plus difficile, c'est de récupérer les personnages, parce que bon, les lignes narratives qu'il avait lancées, ça je savais très bien comment j'allais me débrouiller avec ça. Mais les personnages, ça a été le plus dur. Et surtout qu'un des principaux personnages, je ne sais pas si pour un, je l'ai quasiment laissé tel quel. Bon, là, j'ai fait quelques petits modifs, j'ai rajouté un petit alter ego, truc, je me suis. Bon, ça a été plus simple, mais là, que ces personnages deviennent les vôtres, ça a été ça le plus difficile en fait.
La citation de Pérec au début du roman, c'est de toi ou c'est d'Emmanuel?
La citation de Pérec au début du roman, c'est de moi.
Ça m'amuse parce qu'en fait on a grandi dans la même ville, paisible et bourgeoise. Je le vois en lisant la bio et hop, j'ouvre le livre pour me retrouver dans un désabolant sur une autre côte lointaine. Quel effort ça vous a demandé de vous extraire de notre réalité pour créer avec autant de réalisme un sonore roman?
Merci pour ça. Comment dire comme je disais, j'ai puisé les images donc dans les films, etc. Et puis, maintenant, grâce à Internet, bon, il faut dire, c'est quand même assez facile. Et tous les outils qu'on a comme Google Earth, etc., de se rendre sur ces routes, voir la tête que ça a, de voir les intersections des internet, j'ai pas pu m'y rendre en personne sur place. Mais ça donne envie en fait. Maintenant, je me dis, si un jour j'ai les moyens et l'occasion, je ferai un détour, ne serait-ce que pour passer dans une ville où il n'y a aucun autre intérêt que d'avoir à y passer mes personnages pour simplement voir si c'est un peu comme, comme j'ai imaginé ou comme j'ai pu l'écrire.
Merci. Du coup, je vais poser une question. Je pense que c'est aussi à vous tous une question un peu naïve, mais pour conclure aussi, finalement, est-ce que c'est plaisant d'être dans une série de romans inclassables? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez ou tout simplement, voilà, vous faites votre boulot d'écrivain et puis bah, là, on se retrouve là, à dire, oh là là, mais pourquoi moi, je suis un récit hors du commun?
It's actually been a problem saying I earn my living as a writer.
C'est pas un problème parce que je gagne ma vie comme écrivain.
It took a while before people realized that it was actually viable in print commercially.
Ça a mis un moment avant que quelqu'un se rende compte que c'était finalement viable de les imprimer.
I wouldn't recommend new writers necessarily try it.
Je recommanderais pas forcément à de nouveaux écrivains d'essayer ça.
But it's been rewarding in the end.
Mais ça a payé à la fin.
Je ne sais pas si c'est lié. Je me retrouve, bon, je débute tout juste, mais je me retrouve dans ce que peuvent dire mes deux prédécesseurs, à savoir que voilà, ces romans qui sont un petit peu, un peu de ci, un peu de ça, etc., c'est pas toujours facile à démarcher, à vendre. Alors, il y a des fois, on le voit, par exemple, sur les différentes critiques ou les nominations à des prix, etc., que pas forcément nominés ou ce genre de choses, mais ils attirent aussi des fois l'attention par le fait qu'ils sont un peu inclassables, un peu à la marge. Donc voilà, moi c'est vrai que c'était mon deuxième roman que j'ai donc écrit, et je pensais que j'aurais eu plus de mal à le proposer, à le faire éditer que le premier, qui était un peu plus classique. C'est une histoire qui se passe en 1916 dans les années 30 avec un pendant un peu fantasy, et je me disais ça, c'est un peu peut-être une porte d'entrée, ce n'est pas stratégique, mais voilà, il y avait quand même cette réflexion-là. Et le deuxième, je me disais, bon, ça va être un peu plus dur à vendre, et finalement, c'est celui-là qui a été publié en premier. Donc, c'est une force, c'est une faiblesse. Malgré tout, moi, c'est ce que j'aime écrire, et j'aurais du mal à me dire, je vais aller dans telle chapelle, ou dans un genre bien identifié, comme ça, ce sera plus facile. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, il y a des gens qui le font très bien, avec beaucoup de talent. Moi, très vite, il faut que j'amène ma en bouillant un peu bizarre. Quoi.
Voilà. Moi, je suis un écrivain qui va plus vers sa fin que. Donc, je ne me pose pas de soucis de carrière et je suis en train d'écrire un troisième roman dans un genre qui m'a toujours intéressé, qui est un roman policier. Dans le roman policier, au début, dans le roman d'énigmes, il y a eu un auteur américain qui a composé un décalogue. Il y a 20 règles qu'il faut absolument respecter pour écrire un bon roman policier, et pour essayer d'éliminer déjà dans les intrigues des choses qui avaient été faites par des prédécesseurs. Une de ces règles, c'est de ne pas utiliser dans un roman policier un passage secret. Et bien, c'est ce que j'ai